Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine de février 2024. Ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Radio universitaire préférée. Content de vous retrouver cette semaine. Avec une certaine bonne nouvelle, quand même. Bon, en tout cas, ça dépend pour qui et de quel côté de l'histoire. Et c'est une décision quand même assez unique. Une peine exemplaire qui a été donnée dans un cas de cyberharcèlement. Pourquoi on en parle? C'est justement cette espèce de côté-là très unique. Parce qu'en tout cas, de mémoire, c'est jamais arrivé. Pour du cyberharcèlement. Souvenez-vous, il y a quelques temps, à l'émission Tout le monde en parle, avril dernier, il y avait Sébastien Rioux. Trois pistoles qui étaient pour aller parler justement d'harcèlement sur le web. Et notamment du harcèlement que Peter Pankak de Gatineau lui avait fait subir. Entre mai 2020 et août 2021, pendant un an et quelques. Peter Pankak, 38 ans, a envoyé un nombre incalculable de messages haineux, y compris des menaces de mort et usurpation d'identité à Sébastien Rioux sur les réseaux sociaux. Il avait plaidé coupable d'accusation de harcèlement criminel en mars 2023. Raison pourquoi Sébastien Rioux s'était rendu en avril 23 sur le plateau, tout le monde en parle. Et on était dans l'attente de la sentence qui est survenue hier soir. Hier en fin d'après-midi. Jeudi, au moment d'enregistrer, évidemment. La couronne demandait une peine de 9 à 12 mois d'emprisonnement suivie de 3 ans de probation. Les avocats de la victime ont fait valoir que Sébastien Rioux vivait toujours avec les conséquences de cet événement. La défense, elle recommandait une peine de 9 à 12 mois dans la collectivité avec probation. La juge s'est plutôt rangée du côté de la défense en imposant 9 mois de prison suivi de 3 ans de probation. Donc le minimum de 9 à 12, on y va avec 9. Et c'est une peine exemplaire, ça ne s'est jamais vu autant de temps en prison. Et dans le cas de Pankak, qui avait été précédemment déjà reconnu coupable de harcèlement, on pouvait dire que c'était un genre de récidive, sans être une récidive directe. Il y avait déjà plaidé coupable dans le passé pour du harcèlement. Il s'agit de l'une des premières causes entendues en matière de cyberharcèlement. Cette affaire pourrait bien faire jurisprudence. Dans sa décision, la juge Luce Kennedy a affirmé qu'elle voulait envoyer un message clair à Peter Pocak. Voilà, il avait été reconnu coupable à six autres reprises de harcèlement, de voies de fait et d'omission de se conformer à des ordonnances entre 2008 et 2021. Donc, dans la vie, il faisait déjà du harcèlement et en plus, le soir, sur le web, il continuait d'en faire, caché derrière des personnages fictifs sur les réseaux sociaux. Parce que sa manière de faire à Peter Pocak, c'était ça, c'était de créer plusieurs comptes sur notamment Twitter avec des petits jeux de mots avec les en faisant des personnages qu'on appelle sur Twitter pour être ainsi dire un troll sur Internet et avait pris pour cible Sébastien Rioux comme ça pour l'écœurer pendant un an et demi. Je jugeais mal les conséquences de mes gestes. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait dit d'arrêter. Je n'allais pas bien à ce moment-là. Être troll me permettait d'oublier mes propres malheurs. Ça, c'est la défense que Peter Pocak a donnée pour, j'allais dire justifier, mais plutôt expliquer ses gestes. Ce qui est assez faible. Donc, je vais rendre les autres malheureux. Parce que je suis malheureux. Eh oui. Comme si ça, c'est... Ah, ben oui, ça allait tout excuser. Il a réussi à créer en moi le sentiment de ne plus être en sécurité nulle part. Il a tué quelque chose en moi qui ne pourra plus jamais revenir. Mon interaction avec les réseaux sociaux ne sera plus jamais la même. Avait dit la victime lors de son témoignage cette semaine. Donc... au moment d'entendre les plaidoiries. Parce que pendant un an et demi, ce gars-là se faisait dire « Je vais te trouver et je vais te tuer. » Et à d'autres occasions, des faux comptes de Sébastien Rioux étaient créés, toujours par Peter Pocak, pour le faire passer pour un pédophile sur Twitter. Je voulais oublier mes propres malheurs. C'est ce que Pocak disait. Et justement, parce qu'en ce moment, ce n'est pas le seul à faire ça. Il y en a beaucoup qui le font. C'était le message que la juge voulait envoyer, que ça ne passe pas et que ça ne passe plus à la légère comme ça l'était. Parce que combien de fois sur les commentaires, beaucoup moins les commentaires Facebook, vu que la nouvelle est toujours bloquée par Meta, mais sur Twitter, ça peut être aussi anodin que... Justin Trudeau souligne une fête religieuse ou que François Legault souhaite la bonne année aux Québécois, que dans les commentaires ou sous ces publications-là, ça va traiter de tous les noms, les politiciens, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux ou peu importe. Et ça, justement, ça a été... un peu trop toléré. À quelques occasions, il y a eu des dénonciations, il y a des gens qui ont comparu parce que, justement, ça devenait inacceptable ou il y avait des menaces... pour la santé physique de ces personnes-là, parce que dans ce cas-ci, bon, il était dans deux régions complètement différentes. T'sais, l'un était en Gatineau, l'autre était dans le Bas-Saint-Laurent. Mais on le sait pas, ça, qu'ils sont dans deux villes différentes. Fait que celui qui dit « Je vais te trouver, je sais où tu restes, je vais te tuer », c'est pas à prendre à la légère. Et c'est ce qui est arrivé, justement, à un moment donné, Sébastien Rioux a fait « Non, non, là, c'est terminé, je ne laisserai plus ça aller ». En a découlé les événements des derniers jours. En tout cas, la condamnation des derniers jours. Pendant 18 mois, des messages à caractère pornographique, de scatophilie, qui a tenté d'usurper son identité afin de se faire passer pour un pédophile, notamment. Et si ça s'était arrêté à Twitter, ça aurait peut-être été un petit peu plus difficile peut-être à le retracer. Il s'est créé des comptes sur toutes les autres plateformes où il était capable de trouver un compte appartenant à Sébastien Rioux pour aller l'écœurer là-dessus sur Instagram, sur YouTube, par email. Il a envoyé des messages à répétition. C'est pas un accident de parcours. C'est pas un personnage anonyme qui s'en... Ben, en fait, probablement qui s'en prenait à plusieurs autres, mais dans le cas de Sébastien Rioux, c'était répété. Et justement, parce que c'était répété à ce point-là, la SQ avait accepté d'ouvrir l'enquête à ce moment-là. S'ensuit par la suite en mars qu'il a décidé de plaider coupable, mars dernier, et que la sentence a été rendue cette année. A été rendue hier, 1er février. A été rendue le 1er février. Et quand je le disais que les commentaires sont désobligeants sur les réseaux sociaux quand on a une gang qui n'est pas d'accord, la plupart des articles qui parle de cette affaire-là, les commentaires sont évidemment contre Sébastien Rioux par des comptes comble du hasard, non identifiés avec des jeux de mots ou qu'on ne sait pas directement qui est le nom de cette personne-là. Quand les premiers qui devraient être concernés par ce genre de choses-là, c'est évidemment les gens qui ont des comptes anonymes qui se trouvent drôles d'harceler le monde sur Internet parce que justement cet anonymat-là que leur confère une plateforme comme Twitter, comme X, parce qu'on n'a pas besoin de valider le nom sur le compte. Comparativement à un Facebook qui va demander d'avoir peut-être un... Mais il y a quand même des comptes qui passent, mais tu sais, qui normalement demandent à ce qu'on on authentifie la personne derrière. Ben, dans le cas de Twitter, tu peux inventer un nom avec une photo bidon et commencer à écœurer du monde pour le fun d'eux. Et malheureusement, il y a quand même des gens qui trouvent ça... qui prennent le côté de Peter Poncak que c'est... Oh, c'est pas un mauvais gars, il est pas si... Non, non. Avant de commencer à écœurer une personne de manière intensive pendant un an et demi, il y avait déjà du harcèlement dans son dossier criminel. C'est pas anodin. C'est pas quelqu'un demain. En fait, il y a personne qui se lève un matin puis qui dit « Ouais, aujourd'hui, je vais démolir la vie de quelqu'un en inventant que c'est un pédophile sur les réseaux sociaux. » Voyons donc. Et il y a quand même des gens qui prennent son bord en disant « Mais voyons, c'était juste des blagues. » Et ça, c'est tout aussi problématique, j'ai envie de dire. Bref, c'est bien terminé. Dans le cas de Sébastien Rioux, ça peut lui donner un semblant de soulagement ou quelque chose, tant mieux. Et justement, parce que ce cas-là fera jurisprudence, ça va peut-être en dissuader un ou deux de continuer à faire ce genre de niaiserie-là sur les réseaux sociaux, parce que justement, c'est inacceptable, tout simplement. On s'arrête quelques instants, au retour, la suite de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIZ. Paquet, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis dans l'émission Force des Roches sur les ondes de CFAQ, 3 CHIZ, 94.3. Encore une semaine difficile pour le gouvernement de François Legault, si c'est le cas de le dire. On essaie d'utiliser le moins possible François Legault, fait qu'on le sort beaucoup moins qu'à une autre époque où il aurait donné son opinion sur à peu près tout le temps. Parce que ça a joué énormément contre lui l'année dernière, donc il va être un petit peu plus discret. On l'a donc utilisé cette semaine, Fitzgibbon, Bernard Drinville, Jean-François Roberge et un petit peu Geneviève Guilbeault pour répéter que les ministres ne sont pas achetables pour 100$. Fitzgibbon a dit « Vous ne m'achèterez pas pour 100$ », donc lui, il l'a personnifié, mais quelque faisant, peut-être, ça pourrait aider. On parlait de cocktail de financement, cocktail en français, Q-U-E-T-E-L, pour la graphie française, amateur de mots croisés. Quatre députés de la Coalition Avenir Québec sont présentement sous investigation et ou vont l'être éventuellement pour avoir proposé à certains maires de leur circonscription de venir assister à des soupers de financement de la coalition pour la modique somme de 100$, qui est le maximum lorsqu'on n'est pas en élection, pour participer à un souper et de peut-être courir la chance de discuter avec le ministre invité sur place à ce moment-là. Donc, malgré le déchirage de chemise de Bernard Drinville de dire « c'est pas vrai qu'on achète un ministre pour 100$ pour changer les dossiers », effectivement, Bernard, ce n'est pas le concept de donner 100$ pour que le ministre accède à notre demande. Le problème, c'est qu'on demande une rétribution, qu'on demande une contribution, je devrais plutôt dire, de 100$ pour que le maire de la municipalité puisse rencontrer le maire. Après ça, évidemment que ça n'oblige pas le député ou le ministre à accéder à la demande. Mais ça peut faire en sorte que le dossier qui est dans la pile, il remonte sur le dessus de la pile. Ça, c'est pas rare. Ça s'est déjà vu. Il y a eu une commission grand complet là-dessus. Comble de l'ironie, Sonia Lebel, qui enquêtait sur cette fameuse commission Charbonneau, se retrouve maintenant du côté de la CAQ. Ça fait toujours sourire. Et en même temps, il y a eu à quelques reprises un autre des avocats de la commission Charbonneau qui était un petit peu déçu de Sonia Lebel depuis qu'elle est avec la CAQ et qu'elle est comme rendue de ce bar-là, de faire des cocktails et des petits tours de passe-passe comme ça. Fait que, évidemment, ben en ce moment, il y a quatre députés de la CAQ qui sont sous enquête ou qui vont l'être. Donc, dans un mouvement de vouloir... c'est pas clair, de vouloir réglementer ça, de vouloir... en discuter peut-être, mais à la place, François Legault, pour ses quelques minutes de conférence cette semaine, est sorti pour dire que tous les soupers de financement allaient être suspendus à la CAQ jusqu'à nouvel ordre. Et la CAQ invitait, comme par hasard, les partis d'opposition à faire de même. Comme ça, ça l'enverra un message clair que on est tous solidaires avec ça. Le problème, c'est que le financement populaire, quand on est au Parti québécois, quand on est au Parti libéral, quand on est à QS, à la limite, quand on est chez les conservateurs aussi, ça ne donne pas accès à un ministre. On peut parler avec un député de l'opposition, mais ce n'est pas une situation de pouvoir que les autres vont avoir. T'sais, quand même qu'on dirait un maire paye 100$ pour voir Gabriel Nadeau-Dubois, pour voir Paul Saint-Pierre Plamondon, pour voir Marc Tanguay, c'est bien cute, mais ça ne donnera pas grand-chose comparativement à « donne 100$ et tu vas pouvoir parler directement à Geneviève Guilbeault, à Fitzgibbon ou à Christian Dubé. » Il y a comme un échelle, on va dire, dans les députés, puis un député d'arrière-ban peut-être va pouvoir faire de quoi dans le comté. Mais c'est sûr que si c'est pour faire modifier une piste, pas une piste, mais faire modifier une route au transport, de faire, tu sais, aider un hôpital de région, tu sais, ça sera pas le député d'arrière-ban qui va pouvoir y changer grand-chose versus un ministre de quelque chose. Ce qui fait également en sorte que ces soupers populaires-là, ou en tout cas ces manières de faire populaires, c'est que l'an dernier, en 2023, la CAQ avait ramassé 814 000 $ grâce à ça. Il y en a 100 000 qui est réparti pour les maires qui ont donné de l'argent, mais quand même. Après ça, rien n'indique qu'il y a des maires là-dedans qui ont donné 100$ parce qu'ils aiment la CAQ. Ça, ça va. C'est les maires qui ont été obligés de donner 100$ pour parler à un ministre que là, c'est problématique. Évidemment, ben, cette invitation-là de François Legault de se priver de ces montants-là, ce serait de se priver pour la CAQ de 814 000 $ pour le Parti québécois de 767 000 $ donc c'est ceux qui seraient le plus affectés, puisque QS et les libéraux, c'est 276 et 271, et les conservateurs ferment la marche avec à peine 57 000 $ Mais quand même, si on dit que le financement populaire s'en va complètement, ça veut dire qu'il ne resterait que l'argent remis par Élections Québec au pourcentage de votes reçus, ce qui donnerait quand même à la prochaine élection pour la CAQ un budget de 4 700 000, pour QS 1 700 000, Parti québécois 1 600 000, même chose pour les libéraux et 1 400 000 pour les conservateurs. Mais il n'y aurait pas de moyen d'aller chercher d'autres argent que ça. Donc, la CAQ partirait quand même avec 3 fois plus d'argent que les autres. Et même si on additionne rapidement, il y aurait à peu près le même nombre d'argent pour la CAQ que les partis d'opposition, si ce n'était pas des soupers de financement. Évidemment, on n'est pas en année électorale, fait que c'est pas trop problématique. Mais c'est sûr que la CAQ, et ça, plusieurs observateurs l'ont dit, qui commence à avoir un peu beaucoup la chienne du Parti québécois, ben c'est drôle qu'ils commencent à suggérer que les soupers de financement, ben on pourrait s'en passer. Tu sais, on est pas obligé de les garder. C'est cet argent-là, tu sais, c'est comme par hasard, ceux qui commencent à avoir plus de popularité, parce que si on regarde évidemment les derniers sondages, si on les répartit, quand on décide de les répartir sur les différentes différentes circonscriptions, voilà, ben on se rend compte que la CAQ passerait de 89 à 8 et que le Parti québécois monterait jusqu'à 76. Mais tellement le Parti québécois en ce moment est élevé. Donc c'est sûr que pour une éventuelle élection, on ne veut pas nécessairement que le Parti québécois ait de grands moyens, surtout lorsqu'on est à la CAQ. Et qu'on voudrait peut-être sauver son poste. Ce qui ramène également dans l'actualité l'élection... pas l'élection partielle, mais plutôt l'élection si on décidait d'y aller à la proportionnelle. Parce que si on y allait au pourcentage, si on recommençait à parler de pourcentage marquant, ben la CAQ ne serait pas complètement effacée. Si la réforme du mode de scrutin, voilà l'autre mot que je cherchais, n'avait pas été mise de côté lorsque, évidemment, la CAQ avait pris le pouvoir avec plus de 75% de la députation, avec uniquement 30-quelques pourcents des intentions de vote. Mais là, maintenant que la situation est renversée, va-t-on se surprendre d'avoir la CAQ qui va parler de réforme du mode de scrutin? Sûrement pas. Mais comme le troisième lien, la CAQ ne serait pas à sa première... mais sa première manœuvre de recul. Fait que sait-on jamais. Sait-on jamais. Parce que pour l'instant, la CAQ, avec seulement 8 députés, c'est pas ce qui est le plus, c'est pas ce qui est le plus encourageant. On s'en va quelques instants. On retourne la suite de ce deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Comment de bord avec manquer le bateau sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Manquer le bateau, mais c'est ça que la CAQ est en train de faire depuis plusieurs semaines. Ça ne va pas super bien. Et justement, le dernier sondage à être paru cette semaine en provenance de l'actualité confirme cette tendance-là. J'en ai parlé un petit peu avant la pause. J'étais un petit peu généreux sur le PQ. Donc, c'est le PQ repartira avec 67 siège, ce qui est tout près de la majorité. On arrive sur un territoire majoritaire avec le PQ. Essentiellement, c'est les régions qui donnent le Parti québécois avec une solide avance. L'Estrie, notamment, passerait au grand complet à du bleu PQ, sauf à Sherbrooke et dans Saint-François, qui pourrait tomber orange. On a quand Saint-François passé de la CAQ à Québec solidaire, le reste serait bleu. Tout autour de l'Estrie, c'est du bleu PQ. Seul comté en Montérégie qui resterait à la CAQ, c'est la Prairie. Sinon, tout le reste s'est réparti entre le PQ et plus on s'approche de Montréal, ça retourne aux libéraux. En Outaouais, ça serait le dernier bastion de la CAQ, plus les deux collés sur Ottawa qui appartiennent aux libéraux. L'Abitibi-Témiscamingue serait tricolore. L'Ouest au PQ, l'Est à la CAQ. Et Rouyn-Noranda-Témiscamingue serait de retour dans le sillon de la nouvelle co-porte-parole et ministre de la Santé-Rien. Laurentides, Saguenay, Nord du Québec, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, tout ça s'en va du côté du PQ. Lanaudière, sauf la circonscription de François Legault, PQ. Mauricie, sauf un, appartient au Parti québécois. Centre du Québec, c'est moitié-moitié. La moitié PQ, l'autre moitié CAQ. On arrive dans la région de Québec, Capitale-Nationale. Tout ce qui est CAQ devient PQ. Ce qui est Québec solidaire reste solidaire. Même chose du côté de Chaudière-Appalaches. Tout ce qui est en bordure de Québec devient PQ. Et où ça peut devenir un tout petit peu intéressant, tout dépendamment qui sera à la tête. Lobinière-Frontenac, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, La Pelletrie et Chauveau pourraient passer aux mains des conservateurs. Quand même. Donc en ce moment, si, puis l'île de Montréal, c'est moitié libéral, moitié QS, sauf deux comtés qui appartiennent au Parti québécois, dont Camille Lorrain pour le chef, et Laval passe au rouge complètement. Donc, si des élections avaient eu lieu mercredi dernier, le Parti québécois, ça c'est toujours fictif, hein, parce que ça c'est selon des chiffres, ce ne sont pas la réalité terrain, parce qu'après ça, sur le terrain, ça se peut qu'il y ait des petits bastions qui décident de tout de même aller voter massivement. Mais si des élections avaient eu lieu, Mercredi cette semaine, mercredi 31 janvier, le Parti québécois récolterait 67 sièges. Le Parti libéral se remonterait à 28. QS se maintiendrait à 15. Alors, on va augmenter un petit peu à 15. La CAQ s'effondre à 9. Et le Parti conservateur ferait tout de même 6 gains dans la région de Québec. Quand on dit que la province est divisée, c'est le cas, quoique de moins en moins, parce que là, de passer de 3 députés à l'élection, 4 avec une partielle, et maintenant 60-quelques, à peine un an plus tard, c'est que ça ne va pas bien pour la coalition Avenir Québec. Et justement, parce que cette arrogance-là, les gens en ont soupé, les gens sont tannés de cette arrogance-là, de cette volonté-là de la coalition Avenir de tout contrôler, comme pendant la pandémie, ben ça ne passe plus. Un autre exemple, le genre de programme qui avait été mis en place par la CAQ un peu précipitamment, qu'on pensait que ça allait faire en sorte que les chantiers de construction allaient se remplir puis qu'on allait sortir les bâtiments de terre du jour au lendemain, bien évidemment, c'est un autre plan qui s'en va chez l'IAB. La formation accélérée en construction n'exige pas que les gens, au terme de cette formation-là, aillent travailler sur des chantiers. Autant la formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires demandait à ce que les gens qui suivaient la formation, pour qu'elle soit entièrement payée par l'État, c'est qu'on demandait à ce qu'il y ait des heures obligatoires, qu'on travaille un certain temps, sinon on devait rembourser la formation. Dans le cas de la construction, l'offensive qui avait décidé de lancer Québec, ben là, ils ont enlevé le bout de « vous êtes obligé d'aller travailler au terme de cette formation-là ». Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, parmi les étudiants qui suivent une formation accélérée et qui en plus sont rémunérés par le gouvernement de la CAQ et par le, enfin même le gouvernement point, donc on paye des gens en ce moment avec les taxes pour suivre une formation accélérée en construction, ben, ils n'ont pas l'intention de travailler sur des chantiers. Il y en a en ce moment qui suivent cette formation-là pour rénover leur chalet. Littéralement. Le programme d'attestation d'études professionnelles élaboré en toute hâte connu un vif succès. 47 000 personnes ont déposé une demande d'admission. Beaucoup d'enthousiasme, un cours qui était attendu. Selon Charles Perrault-Deschênes, qui enseigne la charpenterie-menuiserie dans la région de Chaudière-Appalaches, c'est un programme qui répond très bien aux besoins de la clientèle, mais aussi aux besoins des entreprises et du gouvernement. Il a travaillé d'arrache-pied avec ses collègues du Centre de formation professionnelle de l'Envolée, dont il salue la débrouillardise pour préparer le nouveau cours donné depuis quelques jours maintenant. Et en date du 26 janvier, selon le ministère de l'Éducation, 4388 élèves ont été admis dans les formations accélérées et dans le DEP qui vise... dans les DEP visés, pardon, qui visés par l'offensive en construction qui correspond à l'objectif fixé du Québec de former entre 4000 et 5000 nouveaux travailleurs. Mais ces étudiants ne sont pas obligés d'aller travailler. Plusieurs ont confié que non, ils n'allaient pas travailler sur des chantiers. Parce qu'évidemment, quand on commence le cours, règle générale, présentez-vous d'où vous venez et pourquoi vous faites ce programme. Il y en a qui le disent, je ne veux pas aller travailler sur des chantiers, c'est pas vrai. Il y en a qui vont le faire pour développer leurs connaissances, tout simplement. Toujours selon Charles Perrault-Deschênes. Je pense à un étudiant, par exemple, qui a des immeubles qui a des immeubles à revenus et qui aimerait pouvoir faire des travaux par lui-même. D'autres ont des projets plus humbles. Ça peut être simplement d'améliorer leur résidence personnelle. Donc, ils suivent une formation payée par le gouvernement pour qu'eux autres, par la suite, puissent aller agrandir leur salle de bain. Ou, l'exemple plus extrême, rénover un chalet dans le bois. La majorité des étudiants qu'on a présentement du côté de la Montérégie, je pense, le font pour de bonnes raisons. C'est toujours selon l'enseignant qui a requis l'anonymat par peur de représailles. Pour certains, c'est l'opportunité d'une vie de pouvoir encore honorer leur paiement et suivre la formation pour améliorer leur sort ou simplement faire quelque chose qu'ils ont voulu faire toute leur vie. C'est un petit peu plus positif. L'établissement où travaille cette personne a même considéré donner la formation en accéléré en conduite d'engins de chantier, mais après avoir analysé les 100 premières demandes, le projet a été abandonné. La moyenne d'âge des élèves était de plus de 60 ans. La moyenne d'âge des élèves était de plus de 60 ans. Certains ont des érablières. Ils sont à la retraite. Ils ont donc le temps. Ils ont toujours voulu faire ça. Rendu à cet âge-là, malheureusement, et évidemment, ça ne sera pas pour aller sur des chantiers. Mais parce qu'on a laissé ça aller, parce qu'on n'a pas mis ce critère-là pour les chantiers, bien c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont profité. C'est sûr et certain. Un peu comme avec Nordvolt, qui n'exige pas que le gouvernement n'exige pas de Nordvolt qu'il prenne ses ressources localement. Probablement parce que ça aurait été. Nordvolt aurait fait. Ouais, on va quand même amener notre propre stock. Ben non. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Fait que voilà. Des programmes accélérés comme ça qui finalement ne rencontrent pas nécessairement les objectifs fixés. On sort quelques instants au retour. La conclusion de ce deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Chose sauvage avec pression qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ 83 et de Chiz 94.3. Normalement, j'enverrai la bande-annonce, mais là, il n'y a pas de parole dans la bande-annonce. Donc, on va la passer parce que ça reste toujours bien juste des sons avec une musique un peu étrange. Seconde guerre mondiale, le commandant Rudolf Höss s'occupe du camp de concentration d'Auschwitz, réagissant méthodiquement cet endroit où règne la mort. Pendant ce temps, son épouse Edwige construit une existence de rêve pour leurs enfants. La famille habite dans une maison paradisiaque avec un jardin à côté du camp. Un mur empêche de voir ce qui se passe, mais le bruit s'entend jour et nuit. Lorsque Rudolf est appelé à occuper de nouvelles fonctions loin de chez lui, Edwige ne veut surtout pas déménager et quitter cet endroit qu'elle aime plus que tout. C'est la description du film La Zone d'intérêt qui est présenté avec sous-titres, notamment parce que c'est un film allemand. Les critiques sont assez dithyrambiques, sauf erreur, ça a remporté à Cannes également plusieurs prix. C'est une proposition extrêmement intrigante, j'ai envie de dire, mais ne serait-ce que le résumé explique un peu ce qui se passe. On comprend quand même assez rapidement qu'on est comme dans le train-train quotidien de cette famille-là, parce que, tu sais, oui, en background, pendant qu'eux autres, ils font une espèce de petite fête d'été ou qu'elle présente le jardin qui est immense à sa mère, on l'entend dans le background, des coups de fusil, du monde qui crie. Tu sais, même s'il y a un mur entre le jardin et Auschwitz, on suggère toujours ce qui se passe. T'sais, le plus qu'on va sur au travail de monsieur, il est cadré visage de haut parce qu'il est sur son cheval et on ne voit jamais rien. On entend ce qui se passe. mais on ne voit jamais rien. Donc, on est vraiment dans le quotidien parallèle de cette famille-là qui vivent leur vie en étant évidemment de l'autre côté du mur, mais que justement, ils vont avoir des préoccupations de ce monde-là. Tu sais, elle pense à aller faire un voyage en Italie, comme ils l'ont déjà fait. Tu sais, elle ramasse des mauvaises herbes dans son jardin ou elle prépare un gros banquet pour les autres familles qui vont venir pendant la semaine. Puis, tu sais, les madames, ils se jasent ça. Tu sais, je suis allé à l'enchère, je voulais avoir les rideaux de madame quelque chose là, qui doit être rendu au bord du mur. Puis, maudit, la voisine a mis 50$ de plus que moi. Je n'ai pas eu les rideaux. Je les aimais, par exemple. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est l'espèce de. De normalisation, entre guillemets. T'sais, eux autres, c'est tout à fait ordinaire. C'est tout à fait ordinaire. Et littéralement, à un jet de pierre, il y a des gens qui meurent les uns après les autres. Puis eux autres ont leur préoccupation de... « Ah, on a-tu fait assez de soupe pour le souper? » Nanana, tu sais. Et c'est un peu cette espèce de proposition-là, justement, de... Eux, c'est leur quotidien. Tu sais, eux, c'est banal à la limite, même s'ils savent très bien ce qui se passe de l'autre côté des murs. Il y a un personnage qui va comme réaliser ce qui se passe pour vrai, tandis que les autres membres de la famille, tu sais, eux, c'est rendu banal. Tu sais, ils continuent à souper, puis ils dorment relativement paisiblement le soir, puis tout ça. Et ce qui est particulier aussi, c'est justement cette ambiance-là. Tu sais, elle est pas... est assez de base. Tu sais, il y a pas de grosse trame musique. Ben oui, il y a un petit peu de musique quand même, mais tu sais, pendant le film en tant que tel, tu sais, c'est assez calme. Tu sais, justement, cette dichotomie-là entre être dans la famille qui fait juste essayer de vivre sa vie de famille, tandis que c'est la guerre autour. C'est littéralement la guerre autour. Puis justement, bon, le commandant Rudolph va se faire transférer ailleurs. Elle veut pas déménager en ville. Tu sais, c'est... Elle a un jardin. Elle a un petit bassin pour que les enfants se baignent. Et elle a aménagé ça, tu sais, justement en faisant l'espèce de tour du jardin avec sa mère, tu sais. On a fait construire ce pergola-là, puis tu sais, on pensait planter des trucs-là. Tu sais, ils ont une serre, ils ont plein d'affaires. Puis elle, du jour au lendemain, se fait transférer. C'est sûr, ça ne tente pas. Probablement qu'avant que justement lui devienne commandant, il y avait ça, cette espèce de petite villa en ville, dans des petits appartements, surtout pendant la Deuxième Guerre. Tu sais, c'est pas le coin le plus particulièrement intéressant. Puis là, ils s'en vont, bon, oui, à côté d'Auschwitz, mais tu sais, eux autres, c'est aménagé pour vivre ça là. Fait que autant. On trouve ça, on peut trouver ça complètement aberrant. Autant en même temps, on peut se placer dans leur situation qui sont comme, ben, on fait ce qu'on peut faire, puis that's it. T'sais, ils ont pas, dans leur cas, eux autres, il n'y a pas eu de avant-après. Ben oui, il y a eu un avant-après, mais c'est pas le même avant et après qu'évidemment les Juifs qui sont au bord du mur. Fait que, tu sais, c'est extrêmement particulier. C'est très intriguant, puis il n'y a pas de... C'est assez dur de faire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça », parce qu'évidemment, c'est pas confortable comme situation. Tu sais, justement, cette espèce de conversation-là de « Ah, la madame juive chez qui je faisais le ménage, j'ai essayé d'avoir ses rideaux, ça n'a pas marché. » Tu sais, ces espèces de conversations-là que tu te dis « Mais mon Dieu, est-ce qu'elle réalise ce qu'elles sont en train de dire ou pas? » Et c'est ça qui fait que c'est particulier. Donc, l'espèce de détachement, vie quotidienne, c'est des choses qui arrivent. Quand au contraire, c'est complètement effroyable ce qui se passe. C'est une proposition particulière, j'ai envie de dire. Donc, faut, l'ayant en tête, justement, que c'est qu'on est dans une famille nazie, c'est sûr qu'on peut avoir peut-être ce petit point d'interrogation-là de « Ah ouais, hein, c'est ça qu'ils font, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils feraient d'autre? » C'est ça qui est particulier. Fait que, à suivre, à voir, ne serait-ce que pour découvrir de quoi ça a l'air, cet univers-là. Zone d'intérêt, Maison du cinéma ici à Sherbrooke, le CLAP à Québec, certainement, c'est sous-titré. Important pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins fans de films sous-titrés, mais une traduction aurait été aussi étrange, fait que ça fonctionne dans ce cas-ci. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHUZ. À la semaine prochaine. Salut.